Radio G. www.radio-g.fr.
Bonjour, vous écoutez Radio G, il est l'heure, Monseigneur. Aujourd'hui, une émission avec Marc Viel de France Bénévolat et Séverine Baudin, médiatrice culturelle au Musée d'Angers.
Nous vous laissons sur une petite pause musicale, Lily de Pierre Perret.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
C'était Lily de Pierre Perret. On retrouve tout de suite après un petit reportage sur les musées d'Angers, Séverine Baudin, médiatrice culturelle. A tout de suite.
Qu'il soit symbolique, imaginaire ou tout simplement familier, l'animal a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Peinture, sculpture, tapisserie, les musées d'Angers en ont de nombreuses représentations dans leur collection. Mais pour la première fois, ces œuvres se côtoient dans une exposition conçue comme un cabinet de curiosité.
L'idée, c'était de présenter une diversité des collections des musées d'Angers et de faire dialoguer entre elles donc, ces collections, aussi bien des collections artistiques, des œuvres d'art, qu'également des collections taxidermisées d'histoire naturelle. Nous avions en tête donc, tous ces animaux dans nos collections. Donc, certes, on s'inscrit dans une lignée d'expositions, beauté animale au Grand Palais, animal à la Bibliothèque nationale de France, mais on trouvait que c'était un sujet qui convenait bien à la diversité de nos fonds.
Pour réaliser ce projet, de nombreuses pièces ont dû être restaurées. Les plus anciennes datant de moins de 200 millions d'années. Des objets souvent méconnus car jusqu'à présent restés dans l'ombre des réserves, comme cette sculpture conçue au XIXe siècle par un disciple de David d'Angers.
Cette sculpture d'Hippolyte Mindron avait été restaurée à l'occasion de la réouverture du musée des Beaux-Arts. Elle n'avait pas pu être exposée et donc elle attendait son moment. Et donc là, elle est exposée dans le cadre du focus chien pour montrer cette relation particulière que l'homme peut avoir avec le chien, animal domestique par excellence.
Cette grande parade des animaux donne lieu à d'étonnants face-à-face qui renvoient bien souvent à l'histoire qu'ils entretiennent avec les hommes. La panthère était par exemple le symbole de puissance figurant sur le blason des comtes d'Anjou et de la dynastie Plantagenêt. Si les enfants ne manqueront pas de s'émerveiller devant ce bestiaire singulier, les plus grands, eux, pourront s'amuser à explorer toutes ces représentations.
Alors, Séverine Baudin, merci d'être avec nous. Nous venons d'écouter un petit reportage qui nous illustre une exposition qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Mais aujourd'hui, les musées d'Angers sont toujours aussi vivants. Et je voudrais commencer par vous poser la question, combien de musées y a-t-il à Angers et quelles sont leurs spécificités ?
Alors, les musées d'Angers, c'est très riche. On a sur la ville, en fait, 5 musées d'art. Alors, il faut savoir que les plus connus, c'est souvent le musée des Beaux-Arts, qui est en centre-ville. Mais juste à côté, il y a également la galerie David d'Angers, une galerie de sculptures. Et si vous avez traversé aussi la Maine, vous avez dans le quartier de la Doutre le musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine. Donc, un lieu qui est très vivant, puisqu'il y a des expositions également dans ce musée. Et puis après, si vous sortez de la ville d'Angers, vous avez aussi un musée qui est à Villevêque, le musée Château de Villevêque, qui n'est pas très loin. Voilà, ça fait une belle petite promenade dominicale.
Avec ensuite, un magnifique parc.
Ah, oui, en plus avec un magnifique parc, exactement. Vous avez aussi alors, le muséum également des sciences naturelles. Et puis prochainement, alors, je peux vous le dire, il y aura la réouverture du musée Pincé l'année prochaine, prévue, donc, qui est rue Le Neveu, qui est connue des Angevins. Et voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir le redécouvrir avec une belle collection à l'intérieur.
D'accord. Une collection de peintures, d'objets ?
C'est une collection plutôt d'objets, de civilisations qui vont nous faire voyager. Ça va du Japon à la Chine, aux antiquités grecques et romaines, précolombiennes. Donc c'est assez varié.
D'accord. Moi, je voudrais lutter contre une idée reçue comme quoi pour aller au musée, il faut être cultivé. En fait, est-ce qu'on peut pas tout simplement aller au musée pour se laisser envahir par l'émotion, pour se laisser émerveiller et partager des instants simples ?
Oui, tout simplement. En fait, faut pas hésiter à passer la porte et se promener et regarder les œuvres sans forcément avoir les connaissances. En fait, rien que pour le plaisir des yeux déjà. Et puis après, si vous voulez en savoir plus, il y a toujours plein de choses qui sont dans les musées pour vous donner un petit peu plus d'informations sans avoir tout ce bagage de culture, de connaissances. Que ce soit les médiateurs sur place les dimanches où on est présent, mais aussi vous avez plein d'outils, d'écrits qui vous permettent de mieux comprendre les œuvres.
Non, j'en veux pour preuve que c'est pour tout le monde, c'est que c'est pas si onéreux que ça. Moi, le musée, c'est beaucoup moins cher qu'une place de cinéma.
Ah bah oui, tout à fait. En plus, on peut y venir avec les enfants, c'est gratuit pour eux jusqu'à moins de 26 ans. Donc c'est vraiment pas cher, faut pas hésiter.
Et nous avons aussi les journées du patrimoine où tous les musées sont ouverts gratuitement. Moi, je me rappelle qu'en tant qu'étudiant, je l'avais fait une ou deux fois, les Beaux-Arts et un peu plus récemment, les tapisseries.
Ouais. Alors il y a plein d'événements dans l'année en fait où on peut venir avec des 7 ans avec la gratuité. Il y a les journées du patrimoine qui sont assez connues, mais il y a aussi la nuit des musées qui au mois de mai en soirée. Voilà, ça donne une autre ambiance. Ouais, c'est pas mal.
Il faut aimer la foule.
Faut aimer la foule, c'est ça. Après,
ça dynamise.
Déjà, ouais, c'est animé. On y côtoie plein de monde différents. En fait, c'est vraiment toutes les générations confondues qui viennent au musée. Après, c'est bien de revenir parce que sur des temps plus calmes, par exemple le week-end, vous pouvez vous promener et voir les œuvres. En plus, on fait une nouvelle formule en ce moment qui a commencé depuis quelques mois, où les dimanches à la carte, il y a un médiateur par site tous les week-ends. Il y a un site qui est vraiment mis en lumière. Et il y a un médiateur qui est là présent toute l'après-midi pour répondre à vos questions ou vous poser des questions aussi parfois pour vous intriguer et éveiller votre curiosité sur ce que vous allez voir.
Alors une question toute bête, tous ces musées ont une accessibilité PMR ou...
Alors le musée des Beaux-Arts, oui, est entièrement accessible. Le musée de la tapisserie contemporaine et Jean Lursa également. Et juste la galerie David d'Angers ou la mezzanine, en fait l'étage supérieur n'est pas accessible, mais on a déjà toutes les collections aussi au rez-de-chaussée qu'on peut voir, qui sont quand même assez grandes statues, assez monumentales. Et puis, le musée Château de Villevêque est également accessible. Nous, on a une belle...
Super. Juste pour rappeler, PMR, personne à mobilité réduite.
Oui.
Raphaël. Et j'ai envie de dire, ça va à tout âge de la vie, aussi bien pour les poussettes, hein, les jeunes parents, que pour les personnes en situation de handicap. C'est essentiel, c'est vrai, de le rappeler, que l'accessibilité, elle se fait relativement facilement aujourd'hui dans tous les lieux publics.
Oui, elle est importante. Et puis après, ce qui est accessible, valable, voilà, effectivement, vous pensez aux poussettes. C'est important que les familles puissent aussi y venir avec beaucoup d'aisance, sans difficulté, sur les marches. Il y a des ascenseurs partout, donc c'est vraiment, ça fait pratique.
Moi, mes plus beaux souvenirs de visite avec mes grands-parents, c'était dans des musées. C'est souvent le bon moment familial.
Alors, moi, j'ai des souvenirs aussi familiaux, à savoir que j'avais pu aller avec mes enfants en bas âge, aller à des animations du musée des Beaux-Arts autour du fil. Il y avait une très belle exposition, une très belle animation derrière. Et j'incite effectivement toutes les personnes, on arrive bientôt en période de vacances scolaires, c'est une bonne idée d'aller au musée avec les enfants. D'une part, ça les éveille, et puis ensuite, c'est une relation qui est un peu particulière, parce que on est dans de la transmission, mais aussi de la découverte.
Oui. Alors, moi, j'avais aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises avec le musée, avec les associations, peut-être des visites, ou aujourd'hui ou pas?
Alors oui, pour les personnes en situation, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, on a créé des visites spécifiques qui ont une approche très sensorielle, où on va faire sentir parfois des odeurs, découvrir par le tactile, par en faisant toucher en fait des échantillons, par exemple, de tissage au musée de la tapisserie contemporaine. Et on a déjà travaillé avec des résidences, des EHPAD, par exemple. Mais là, prochainement, on va travailler aussi en partenariat avec France Alzheimer, l'association. Et donc là, on a une visite qu'on va faire autour du musée de la tapisserie contemporaine, où à la fois c'est de la découverte sensorielle et en même temps on va faire aussi une pratique. Donc ça va permettre vraiment de partager ce temps d'expérimentation autour du tissage et de pouvoir sortir un petit peu de ce champ de la maladie, de prendre le temps de regarder les œuvres et le plaisir de faire aussi.
Le fait est que l'an dernier, il y a déjà eu une expérience avec l'association France Alzheimer 49 au musée des Beaux-Arts. Alors, je regrette de ne pas y avoir y assisté, mais j'avais un excellent retour où effectivement les personnes pouvaient visiter le musée autrement. Et ça, c'est important de le dire, qu'on s'adapte aussi au public quand vous recevez. Oui. C'est construit autour de chaque public, chaque spécificité. Et ça, c'est valorisant pour tout le monde. Concernant les différents publics, justement, aujourd'hui, vous avez des publics très, très distincts. Et je crois qu'il faut faire comprendre à tous nos seniors qu'il n'y a personne qui est écarté. On a aussi bien des animations pour les enfants que des animations pour les étudiants. Tu en parlais tout à l'heure, Ricardo. Oui. Mais les seniors aussi ont leur quart d'heure, j'ai envie de dire, libre à eux de se permettre d'aller au musée pour pouvoir profiter d'instants, on va dire, ensemble ou seul. Et ça, c'est essentiel de pouvoir permettre à chacun d'aller prendre un moment de culture, tout simplement.
C'est la culture s'adresse à tout le monde. Et c'est ce qui est aussi beau dans les musées, c'est que ça parle, une œuvre d'art, ça parle à tout le monde de différentes manières. C'est très empirique, la découverte. Donc oui, on les aide tout le monde à aller découvrir les musées d'Angers. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une idée reçue aussi, mais les Beaux-Arts d'Angers font partie des 4 plus beaux musées de France.
On ne va peut-être pas aller
jusque-là.
Les classements, ça bouge, ça change. On ne va pas...
Le Louvre. Merci Séverine Baudin pour cet éclairage autour des musées d'Angers. On souhaite que les publics soient nombreux pendant les vacances et en dehors des vacances. Ce sont des lieux de vie intéressants ou de réflexion et de partage aussi. Voilà. Merci à vous.
Merci.
Merci à vous.
La semaine passée, nous avons écouté James Brown avec It's a Man's World, une nouvelle version de Christina Aguilera, et on se retrouve tout de suite après.
Radio G.
Il est l'heure, Monseigneur.
Un lundi sur deux à 13h.
Nous écoutons à présent un reportage sonore sur le bénévolat et on se retrouve tout de suite après avec Marc Vielle de France Bénévolat. A tout de suite.
Pourquoi je suis bénévole ? Parce qu'un petit peu par hasard et puis par tradition.
Même si j'adore mon métier, ça ne comble pas tout ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et pour moi, le bénévolat, c'est vraiment ça, en fait. C'est une autre manière d'être heureuse, finalement, et de faire des choses que j'aime.
La première chose que vous apporte le bénévolat quand vous êtes actif dans le bénévolat, c'est une ouverture d'esprit, parce que vous êtes obligé de l'avoir.
Je suis devenu bénévole parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Je ne suis pas tombé dedans comme Obélix.
Dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me mettre bénévole dans une association, parce que j'avais toujours envie d'être un peu actif.
Je suis venu au bénévolat par l'éducation populaire, des camps d'ados dans le Massif central, où j'ai vécu des expériences assez extraordinaires.
Je suis venu très tard au bénévolat, puisque c'est seulement il y a 3 ans. C'est quelque chose qui était toujours là, que je faisais pas pour différentes raisons. Et aujourd'hui, très clairement, c'est un épanouissement.
J'ai dit d'accord et puis je suis entré. J'ai mis une main dedans et puis après j'ai mis le bras dedans. Et...
Alors c'est extrêmement riche. Voilà, toutes ces rencontres que j'ai pu faire à travers ce parcours associatif et bénévole, c'est d'une richesse énorme. Là, j'en retire rien de pécunier, j'en retire uniquement du bonheur.
Le bénévolat, on vient avec nos compétences et nos envies. Et il faut pouvoir laisser la place aux envies.
On peut être bénévole une heure par semaine, comme on peut être bénévole 4 heures par jour.
Nous poursuivons l'émission avec Marc Vielle.
Bonjour.
De l'association France Bénévolat.
Oui, donc France Bénévolat, donc c'est une association qui est en Maine-et-Loire, basée à Angers, 34 rue Thiers, et notre mission, c'est de mettre en relation les candidats au bénévolat avec les associations qui sont adhérentes à France Bénévolat. Voilà, donc le bénévolat, c'est avant tout, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans le reportage, un plus. Hein, d'ailleurs, on utilise ce plus comme en disant P comme plaisir, hein, L comme lien, U comme utilité et S comme sens. Et c'est vrai que il y a une personne qui disait dans le reportage l'importance de rejoindre ses envies, hein, et de s'ouvrir aux autres. Parce que je pense que le bénévolat sa valeur ajoutée, c'est vraiment la mise en relation avec d'autres personnes.
Alors, on vous a invité, Marc Vielle, parce que bientôt, c'est le forum Agora sur Angers, et c'est un petit peu le rendez-vous incontournable de toutes les associations. Et aujourd'hui, France Bénévolat est quelque part le fédérateur de toute cette énergie que peuvent avoir les particuliers et qui ne savent pas toujours qu'en faire. Aujourd'hui, des bénévoles, selon vous ?
Nous avons des bénévoles de tous âges, en fait. Et on constate une étude récente, l'a mis en valeur, qui est organisée d'ailleurs, qui est produite par France Bénévolat National avec le concours de l'IFOP, et qui met en évidence que ce qui progresse actuellement, c'est le bénévolat ponctuel par rapport au bénévolat, j'irais plus durable, avec un engagement régulier, notamment chez les jeunes. Hein, les jeunes s'engagent de plus en plus, mais sur des périodes plus, sur des événements, sur des éléments plus ponctuels.
Les gens ont peur de l'engagement.
Voilà. Et pour ce qui concerne les personnes plus âgées, il y a une certaine constance malgré tout, mais il y a peut-être une petite perte de vitesse, sachant que il y a des éléments qui l'expliquent, hein, notamment les fins de travail, de retraite, notamment le passage à la retraite, sont pas toujours évidentes, hein, les gens ont besoin de souffler. Il y a aussi des personnes qui sont amenées à s'occuper de leur des personnes qui sont de leur famille, hein, qui sont en difficulté. Les personnes vivent de plus en plus longtemps. Donc, notamment, on pense aux parents âgés. Il y a aussi la difficulté concernant l'âge de la retraite, puisqu'elle est repoussée de plus en plus. Et puis, il y a des gens aussi qui ont des petites retraites, donc ils sont obligés peut-être de travailler un peu plus, un peu encore. Donc, voilà. C'est des phénomènes qui sont explicatifs, hein, des hypothèses que l'on fait. Sinon, quand même, il faut savoir qu'il y a quand même 13 millions de Français qui sont dans des associations, avec notamment ce qui est en évidence en premier, ce sont les associations caritatives, hein, socio-caritatives, mais aussi on a des associations sportives, culturelles aussi, donc l'éventail est assez large, en fait, hein, y a d'énormes possibilités.
Non, pour donner un chiffre aussi et du sens au nombre des bénévoles, c'est 13 millions, c'est également le nombre d'artisans en France.
Oui.
Donc c'est vrai
c'est énorme.
Ça présente un effectif essentiel. Oui. Et quelque part, les bénévoles assurent une mission de service public que les autorités aujourd'hui ne sont pas en capacité de toujours assumer.
Oui, tout à fait. Et je crois que cette notion d'utilité et d'efficacité aussi est très recherchée par les gens qui donnent, en fait. Parce que bénévole, c'est je veux bien. Ça veut dire ça, hein, en fait, hein. Et c'est la liberté de donner, hein, par rapport au monde du travail où là on est en subordonné, c'est différent. Et en tout cas, nous, en ce qui concerne France Bénévolat, nous sommes très attentifs à ce que les associations accompagnent les bénévoles et ceux qui gèrent. Il faut être accueillant, il faut partager les pratiques. Quand on arrive dans une association, ben souvent, on est un peu perdu. Il faut intégrer, pour qu'ils puissent s'intégrer, je veux dire, et puis qu'ils puissent ensuite rester dans l'association. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y en a qui sont découragés. C'est dommage.
Oui. J'ai connu la Croix-Rouge avec un rendez-vous avec France Bénévolat. J'avais fini mes études, je cherchais à peu près comment rendre rendez-vous à France Bénévolat, et j'ai été bien accompagné. Donc je vous en remercie aujourd'hui. Et aujourd'hui, la belle histoire avec la Croix-Rouge continue grâce à France Bénévolat. Donc n'hésitez pas, allez-y.
Voilà, des seniors, l'outil en main, où on a un souci particulier sur la transmission. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme l'outil en main où les seniors peuvent montrer toutes leurs connaissances, toutes leurs patrimoine culturel qu'ils peuvent transmettre sur des activités très diverses comme le savoir-faire artisanal ou d'autres, je ne sais pas.
Je pense que ça doit exister, mais moi de mémoire là, enfin, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais c'est vrai que en tout cas cette initiative de transmission que vous évoquez, je la trouve tout à fait pertinente et très intéressante, et je pense que en plus elle a l'intérêt de rapprocher les seniors avec les, oui. avec les jeunes.
Moi, je voulais l'intergénérationnel.
Et l'intergénérationnel, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre société, qui a tendance à parcelliser les catégories de personnes en fonction de ce qu'ils font, de l'âge qu'ils ont, etc. Alors que c'est vrai que ce genre d'initiative, elle permet de partager entre les jeunes et les moins jeunes. C'est formidable.
Alors, juste un petit point dans le reportage, j'entendais, on vient avec nos compétences. Oui, c'est un premier point, mais j'aimerais aussi souligner qu'on peut venir dans diverses associations justement sans compétences.
Bien
parce
sûr.
Que il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui forment, que ce soit la Croix-Rouge, France Alzheimer ou d'autres, plein d'autres associations qui forment. Donc, sans compétences, d'ailleurs, c'est très utile. Donc, c'est juste vous. Venez, et en général, les associations se chargent d'accompagner.
Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est important, finalement, c'est de bien comprendre le projet de l'association que l'on rejoint, et d'essayer de voir si elle est en phase avec ce que disaient nos envies, ce qu'on a envie de vivre, ce dont on a rêvé, qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Ça, c'est un gage, finalement, je dirais, de plus, de bonheur, dans l'association. Je crois que, et les associations doivent être très attentives à ça, d'être à l'écoute de la sensibilité des personnes et de leur, je dirais, de leurs attentes profondes.
Eh bien, merci Marc Vielle. On enchaîne tout de suite avec une reprise de Lily avec les orgues de Barbac et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda. Merci.
On l'a trouvée plutôt jolie. Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Limitant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Le nom de l'élu secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des plans.
Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous.
Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point majeur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur.
Mais dans ton combat quotidien, Lily,
tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
Alors, nous arrivons déjà au terme de cette émission. L'agenda, avant de vous quitter tout de même, pour vous rappeler qu'il y a des ateliers numériques à la résidence autonomie Mon Plaisir. Ça se déroulera le vendredi 18 octobre. C'est parfaitement gratuit. Et vous pouvez vous renseigner au 02 41 23 13 30. Des ateliers numériques pour apprendre à utiliser soit votre smartphone, soit votre tablette, voire votre ordinateur. C'est toujours utile et, ma foi, ça peut être aidant. Madame Baudin, vous aviez autre chose à nous proposer ?
Alors oui, si vous voulez passer dans les musées pendant les vacances scolaires qui vont commencer justement après le 18 octobre. Il y a de quoi s'amuser, se regarder les œuvres pendant toutes les deux semaines pour les animations, pour tous les publics, que ce soit les familles, les plus grands et pour tous les âges.
Monsieur Viel ?
Oui, bon, si vous êtes en recherche d'associations, hein, donc pour vous faire plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, venez donc nous rejoindre sur le stand France Bénévolat, donc du forum des associations Agora, donc à Angers, qui se tiendra au parc Expo d'Angers, il me semble, le 19 et le 20 octobre prochain.
Nous vous remercions, Monsieur Viel, Madame Baudin, merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt pour Il est l'heure, mon Seigneur. Merci Ricardo.
Merci Raphaël.